Eh bien voilà, on va commencer. Donc, merci d'être venu. Oui, je ne vais pas redire ce qu'a dit Rodolphe. Pour info, je suis toujours assise parce que je ne peux pas tenir beaucoup debout. Mais ce n'est pas l'objet de la conférence de ce soir. On ne va pas non plus parler des élections présidentielles françaises, ni même de la crise sanitaire mondiale. Mais on va parler du mal tribu, des tribus de vieux mâles blancs. Autrement dit, de la domination. Alors vous allez me dire, quel drôle de titre cette conférence, on comprend rien, elle fait des jeux de mots barbares, c'est quoi, on comprend rien quoi. Et surtout, quel est le rapport avec la domination? Eh bien, c'est ça que je vous propose de faire ensemble ce soir, parce que je vous mets à contribution, parce que je démarre toujours mes conférences par des questions aux personnes qui ont eu le mérite de venir écouter. Mais moi, je vous écoute d'abord. Alors, il faut que je me mette en position. Donc, voilà, la première question, et je vais prendre des notes, hein, c'est comment vous, vous définiriez la domination ou qu'est-ce que ça vous inspire, ce mot? Je vous écoute. J'ai mon silence. Oui, il marche. Je vous demande, la question est, comment vous, vous définiriez le mot domination? Alors, prendre le dessus.
Oui, influencer, en fait.
Alors, il va falloir parler fort, parce qu'entre le masque et ma surdité...
Je parle fort.
Ouais.
Influencer.
Influencer.
Dominer.
Ouais.
Forcer.
Porter.
Forcer.
Domination, c'est pas... Il y a dominer dedans, quoi. Mais qu'est-ce que ça pourrait vous inspirer
Se sentir au-dessus.
Comment ?
Se sentir au-dessus.
Se sentir au-dessus. Bah, il marche plus.
Faire en sorte que les autres se sentent au-dessus.
Oh, bah attendez, parce que j'ai un souci, là.
Je crois qu'il s'est mis en blanc.
Ah bon ? Attends. Ça y est, je suis perdue. Non. À se sentir au-dessus. J'écris très mal aussi, hein, mais c'est pour moi. Parce qu'après, je prends des notes. Mais...
Et faire en sorte que les autres se sentent au-dessous.
Hop.
Manipuler un peu.
Ouais. Putain. Excusez-moi. Je vais y arriver. Oh là. J'arrive.
Ouais.
Ah non. Comment je fais pour descendre? Merde.
Donc là, vous ne dominez pas l'appareil?
Non, pas du tout. Je ne domine absolument pas l'appareil qui n'est pas le mien, que j'ai emprunté. Et donc, voilà, faire en sorte voilà, que les autres... Voilà. Non, j'arrive pas à descendre. Ah, merde. Bon, bah alors... Ah. Je vais y arriver, hein. Ne croyez pas que j'ai pas répété. Autre chose ?
Manipuler.
Sur la domination ?
Manipuler.
Contraindre.
Contraindre. Vous avez vu, vous m'avez donné que des verbes, hein. C'est intéressant.
Oui.
Je vous ai pas demandé ce que c'était que dominer, je vous ai demandé ce que c'était que la domination. Mais c'est bien, hein. C'est vachement intéressant quand même. Après, j'en ai plein d'autres des questions, donc soit on reste là longtemps, je sais pas. Mais sur cette première question, moi, je trouve ça déjà pas mal ce que vous m'avez dit. Vous avez des trucs à rajouter sur ce qu'est la domination? Sur ce que pourrait être? Comment vous pourriez définir la domination? Vous avez des exemples de domination? T'en as plein? Ben, lâche-toi.
Domination du mâle blanc, là, comme tu dis...
Ouais.
Sur les gens de couleur, les femmes, tout ce qui n'est pas dans leur idéal.
Le hors idéal du mâle blanc. Ouais. D'autres exemples? Des dominations qui existeraient, qu'on connaîtrait.
Ouais,
Ne croyez pas que vous êtes épargné, hein, ni par moi, ni par la domination.
Les patrons.
Les élus sur les administrateurs. Vous fonctionnez.
Ah ben voilà, vous voyez que ça vous parle. Je vous ai dit que ça allait vous parler.
J'ai rien mis devant moi, alors j'en profite.
C'est le cœur, c'est dans votre cœur. Vous la vivez.
Les couples.
Les couples. Ah, je savais bien.
Ouais, il fallait juste dire donner des éclats.
Ouais, mais tu l'as dit, non? Tu l'as pas dit? Si, tu l'as dit.
Ah, sur les femmes.
Bon, allez, on va passer à la question suivante. Que je me trompe pas. Alors, quelle différence faites-vous entre la domination et le pouvoir? Pouvoir et dominer, ça c'est intéressant.
Et donner.
Et donner. Et donner, par qui?
Le pouvoir est donné, parce que par exemple, nous votons, on désigne.
Il faut parler un peu plus fort.
Le pouvoir est subi de manière volontaire.
Est subi?
Subi le pouvoir, mais c'est de manière volontaire.
Vous comprenez ce que j'écris ou c'est complètement illisible? Parce qu'en plus, moi, je ne vois pas ce que...
Je dirais que le pouvoir est en situation de domination.
Le pouvoir est en situation de domination. Et donc là, pareil, qu'est-ce que vous avez comme exemple de pouvoir? Quelque chose de concret qui vous parle, que vous vivez régulièrement, quoi.
Les lois.
D'autres exemples?
Tout le champ de l'action professionnelle, on exerce un pouvoir dans un domaine. Ça peut être sur Enfin, moi j'exerce un pouvoir dans le sens où c'est moi qui décide de la politique documentaire de la médiathèque, c'est quand même un pouvoir.
Exactement. Politique documentaire. Ben ouais.
Ou sur les conférenciers qui viennent.
Eh oui, c'est toi qui décides quand même. Qui c'est qui décide?
Ah ben, moi, avec l'élu, mais c'est un pouvoir qu'on exerce.
Ah, je vois où vous voulez en venir. Et donc le pouvoir, ce serait quoi alors? Ce serait quoi? Si j'entends rien.
Quelque chose de plus officiel avec des lois, avec
oui.
Les lois, les contrats, un pouvoir, c'est forcément derrière, il y a quelque chose qui acte sous le pouvoir. Alors que la domination, pas forcément la domination, ça peut être des gens qui.
Donc ça, c'est la domination.
Oui.
Il y en a qu'on n'entend pas. Hein. Vous croyez que je ne vois pas, mais... Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah.
On ne domine pas le sujet.
Oui, c'est ça.
Oui, on se sent dominé
Allez, on passe à la question suivante. Alors, ça va être pointu, hein, je vous préviens, ça va être pointu. Hein, je vais vous embêter, je vais vous embêter. Cette soirée, vous croyez que c'était relax, tout ça, pas du tout. Donc, quelle différence vous faites entre domination et puissance? Ça se complique, ça se complique. Et ouais, je fais pas dans la... Je suis pas du tout, comme on dit, là... Comment on appelle les gens qui s'occupent de langue, là, linguiste. Mais néanmoins, je m'intéresse beaucoup aux mots. Donc, chaque mot a son importance. Donc, quelle différence vous faites entre domination et puissance?
Pas de domination sans puissance.
Et c'est quoi pour vous la puissance?
C'est le pouvoir.
C'est le pouvoir?
La capacité à faire quelque chose.
J'écris de plus en plus mal. Ouais. C'est quoi la puissance?
La force.
Voilà, je t'ai mal barré, toi, hein, je te préviens, parce que la question suivante, t'es mal. Ah non, mais je vais vous embêter. Hein?
La capacité à être suivi, notamment pour un homme politique.
À être suivi?
Oui, vous écoutez.
D'autres idées? Bon, allez, on passe à la question suivante. J'en ai 6, 7 hein, des questions. Quoi?
T'augmente le son,
t'augmente
la puissance.
Ah, ah. C'est intéressant. La question suivante est quelle domination, quelle différence faites-vous entre la domination et la force? Eh oui, la force. C'est quoi la force? Allez, lâchez-vous, là, tous les jours.
C'est les muscles.
Les muscles.
C'est quelque chose de physique.
Physique.
Ça peut être
mental
aussi.
Mental.
La police.
La police. Ah, voilà, ça va. Il vous faut bien, je ne sais pas combien de temps pour vous échauffer, mais quoi d'autre? Les forces. La force, les forces.
Physique.
Physique, c'est dit,
non,
ça.
Pas le physique,
non, la physique. La physique,
les forces. Les forces électromagnétiques, voilà. Les forces d'attraction, la force de gravité.
Oula, ben on a affaire à un connaisseur. Donc c'est physique, la physique, d'accord. La, alors, comment ça s'écrit déjà? C'est ça? Non, ça, c'est pas ça.
Non. On va dire que c'est ça.
Non, c'est pas ça non plus.
C'est ça, psy.
Ça, c'est psy.
Oui.
Alors la force encore, c'est quoi?
L'émotion contrainte
aussi. Et donc ce serait quoi la différence entre la domination et la force? Parce qu'en fait, il
existe... La force, elle n'est pas forcément négative. Elle est pas, c'est pas, la domination, c'est négatif. La force, c'est pas forcément négatif.
C'est peut-être naturel aussi la force. Les individus, tu veux dire, ils auraient une force.
Oui, alors que la domination,
Donc c'est la force, c'est l'usage qu'on fait de la force ou c'est l'usage qu'on fait...
Enfin, c'est l'usage qu'on en de la domination ou de la force.
Dans les cas, ah, j'ai compris. Question suivante. Non, mais, ah ouais, non, mais j'en ai, je te dis, j'en ai 7-8. On n'en est à même pas à la quatrième. Quelle différence entre domination et autorité ? Ah.
L'autorité n'a pas besoin de domination pour s'exercer.
Vous avez des exemples d'autorité ? Conférencier. Et... Voilà. C'est autoritaire ma façon de faire ?
C'est presque de la domination.
Qu'est-ce quels autres exemples d'autorité ?
Le père.
Le ?
Le père.
Le père.
Le chef.
Oui, le chef. Ah ben voilà.
Autrefois les enseignants.
Et vous avez vu.
Non, mais moi, dans le vrai. Et c'est vrai.
Donc, je mets pas la mer. Pas la mer.
Pas la mer, oui, c'est ça.
Qui c'est qui exerce son autorité sur vous tous les jours ?
Les patrons.
Et vous, vous exercez votre autorité ?
Les enfants.
Donc, c'est les parents, en quelque sorte. Les subordonnés, ils exercent une autorité sur les subordonnés. Voilà. Oui, c'est pas pareil. Hein. Donc là, on a fait déjà 3-4 questions et déjà on est dans les détails. Autre chose sur l'autorité ? Quelle différence entre domination et violence ? Alors là.
Je pense que déjà c'est violent.
Pour moi, c'est.
Alors, c'est violent d'être dominé.
De dominer quelqu'un, c'est de la violence. Pour moi, c'est la violence.
Qu'est-ce que tu disais ? Tu disais quoi tout à l'heure ? J'ai pas entendu.
La domination entraîne souvent la
violence.
C'est fort.
Violence légitime, quand même, celle de l'État.
Illégitime ou légitime ? J'ai pas
légitime,
bien. Légitime. Légitime. De l'État. Est-ce que vous êtes violent ? Ah oui ? Mais genre quoi ?
La parole, la colère, nous
l'injustice.
L'injustice ?
L'injustice. L'injustice. Injustice.
Injustice. L'injustice crée de la violence ?
Oui.
Et vous auriez des exemples de violence, de type de violence à me donner ?
Les femmes battues déjà. Et les hommes battus. Avec ça, avec des enfants.
Les guerres.
Les guerres.
Oula, pas si vite, enfants.
Ouais, les guerres.
Qu'est-ce que tu as dit ?
La violence
Il y en a plein des violences. C'est tout. Alors, puisque en fait je vous amène, mais vous avez bien compris que je vous fais travailler pour m'aider. Pour après. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque pour vous le terme rapports sociaux ?
Les antagonistes.
Les antagonismes ? Entre. Est-ce que vous pourriez. Est-ce qu'il y a plusieurs types de rapports sociaux ? Est-ce que vous pourriez donner des exemples de rapports sociaux ? Voilà, vous allez déjà à ma dernière diapositive. On va aller vite, c'est bien. On s'arrête là pour les rapports sociaux. C'est que l'enca, là. On n'est même pas à la muscule. Alors, quelle relation feriez-vous entre... Je crois que c'est ma dernière question. La domination... Alors, donc, vous vous lâchez parce qu'après, vous n'avez plus la parole. Non, non, c'est faux, c'est faux. Entre la domination et le colonialisme.
Je pense qu'il pourrait y avoir colonialisme sans domination.
C'est pareil.
Il y a quand même... Aujourd'hui, on parle de soft power, pas depuis un certain nombre d'années, et c'est une domination qui n'est pas colonialiste.
Domination qui n'est pas colonialiste ? Et elle est quoi ? Si elle n'est pas colonialiste ? C'est une domination, tu dis ? Le soft power, c'est une domination qui n'est pas colonialiste. Elle est juste pas colonialiste.
Pour moi, le colonialisme, il y a quand même l'idée d'une présence militaire dans un pays pour s'approprier les terres, les minéraux, les richesses.
Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on parle plus de colonialisme. En théorie, ça n'existe plus. En pratique, si, c'est plus larvé, c'est plus subtil. Il n'y a pas forcément besoin d'une présence militaire. C'est plus une présence industrielle. C'est en quelque sorte aussi des rapports sociaux.
Ah bah c'est super, hein, c'est une super audience qui sait déjà tout, c'est vachement bien. fais pas cette tête, tu me fais peur. Toi, tu fronces les sourcils. Toi. Tu crois que je vois rien avec le masque, mais en fait, je vois au moins les sourcils. Hein. À toi. Ouais. T'es en train d'inverser les rapports de domination, là. Bon, on s'arrête là sur le colonialisme. Vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, non ? Il n'y a plus rien à dire. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc c'est peut-être à moi de parler maintenant quand même avec tout ce que vous avez dit. Donc je vous ai posé ces questions pour essayer d'affiner un certain nombre de définitions relatives à la domination. Donc je commence par, vous en avez parlé, la domination comme rapport d'obéissance. T'attends quelqu'un ?
J'attends Nathan.
Ah. Ah. Donc j'ai illustré, vous verrez, il y a plusieurs parties. Chaque partie est illustrée par une image. Donc je vous laisse regarder celle-là. Éventuellement, vous avez des commentaires aussi sur cette image. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ?
Elle est déprise dans le tonnage.
Hein ? Ils cherchent un truc ?
Ouais.
Ah, ils cherchent par terre, hein, ils ont perdu.
Non, moi je dis qu'ils visent les grands, ça ne fait pas du tout la domination. C'est le petit gamin qui est peinard, mais
c'est des blancs, c'est sympa.
Oh, vous êtes chauffé, putain, c'est vachement bien.
Bien habillé en costume.
Bien, oui,
c'est
le
date passé,
le pantalon,
c'était
là. La maman, elle doit
avoir.
Elle
n'est
pas d'hier.
Non, elle n'est pas d'hier. Moi, je voterai pour années 50, là. Voilà. Parce que vu comment elle est sapée, le mot.
Je trouve que c'est sympa de voir ce petit qui fait comme ça. Oui, ah, ouais. Il n'obéit pas, il fait volontairement.
Il fait ce qu'il veut, il est derrière, il est là.
Ah, ouais, vous le sentez libre, là.
Moi, ce petit.
Non, il suit.
Il baisse la tête quand
même. Il suit.
Non, mais c'est. On va voir les premières définitions de la domination. Hein? Donc, je vous propose d'abord la domination comme rapport d'obéissance. Donc, vous en avez parlé. Alors, tout d'abord, d'un point de vue étymologique, hein, le mot dominant vient du latin dominare, qui définit l'exercice de la souveraineté. Ça, vous n'en avez pas parlé. Par le dominus. Qui est le maître des lieux et des âmes. Donc c'est à la fois un rapport géographique, c'est là où vous vous trouvez, et ce que vous pensez. Donc la domination implique un rapport de souveraineté. Donc le concept de domination lie forcément le souverain, celui qui domine, et le sujet, celui qui est dominé, le dominant et le dominé, donc, en tant que rapport d'obéissance par la contrainte entre groupes et individus. Là, ce qui est intéressant, vous allez voir dans l'évolution des définitions qu'on va voir, c'est les notions de groupe et individu. Ça, vous ne l'avez pas du tout abordé, c'est-à-dire en donnant des verbes et en exprimant un certain nombre d'idées, vous n'avez, qu'elles soient personnelles ou plus larges, vous n'avez pas caractérisé le fait que ça soit totalement personnel. Je ne sais plus quand vous avez dit, je ne sais pas quoi, je ne me rappelle plus là déjà. Donc, soit c'est des affaires de groupe ou des affaires d'individu. Alors, on va remonter au XVIIe siècle avec Étienne de la Boétie, il existe une servitude volontaire créée par une manipulation des consciences. Donc, selon lui, les individus sociaux, on parle bien des individus, se conforment aux règles, acceptent les contraintes, même si elles sont très rigoureuses. Donc la photo, le petit garçon, derrière les grands, deux hommes, je suis d'accord avec vous, il accepte, il suit, ça ne se discute pas, voilà. Il faut quand même resituer Étienne de la Boétie, donc au XVIIe siècle. En France, quand il écrit le discours de la servitude volontaire, il a 18 ans, il y en a qui disent qu'il l'a écrit à 16 ans. C'est en pleine guerre de religion, donc catholique, protestant, en pleine monarchie, évidemment. Et il meurt peu avant la Saint-Barthélemy, mais il l'a bien senti arriver, celle-là. Et surtout, ce qu'il a dénoncé dans le même livre sur la servitude volontaire, c'est ce qu'il ne supportait pas, c'était la notion de tyran. L'idée que les peuples soient tyrannisés. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit la Boétie, c'est que autant ils considèrent que les tyrans sont tellement accrochés à leurs privilèges, donc là on pense roi, hein, on pense François Ier, Henri III, Henri IV, et leur cour qui aide les rois à asseoir leur autorité, que eux ne sont pas très libres de s'en débarrasser, alors que selon la Boétie, les serfs, ceux qui sont vraiment en bas de l'échelle, ceux qui payent les impôts pour que les aristocrates mènent à la grande vie et fassent des guerres, eux, ils sont, à tout moment, ils peuvent dire « on arrête de servir ». C'est ce que dit la Boétie. Et donc, en ce sens-là, ils sont libres. Ils sont beaucoup plus libres que les tyrans. Donc, là, je vous amène déjà dans une dialectique où il y a tout n'est pas très simple. Il n'y a pas que les méchants et les gentils. Il n'y a pas que ceux qui obligent et ceux qui obéissent. Il y a à gagner dans, à peu près partout. Alors là, ça n'est pas écrit, mais donc ça, c'est 17e siècle, 19e siècle. Vous devez connaître quand même Karl Marx, qui lui s'intéresse à la domination dans le milieu du travail et qui donc oppose les ouvriers et les patrons, le prolétariat et la bourgeoisie. Dans une époque, donc la fin du 19e, très très industrielle, quoi, avec une très forte industrialisation. Donc là, on n'est déjà plus dans la monarchie, on est déjà en démocratie, on va y revenir, mais on a une forme d'industrialisation qui est très très importante. Et donc Marx parle à propos de la domination, il pense que sont conjugués l'aliénation et l'oppression. Ça, c'est très important parce qu'on va y revenir. Alors, à partir du XXe siècle, du début du XXe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle, ce sont des sociologues qui sont intéressés à la domination, et en particulier les plus connus sont Max Weber, Émile Durkheim et Pierre Bourdieu, qui eux considèrent que la domination est un mécanisme par lequel les dominés consentent à l'obéissance. Donc, eux, ils vont encore plus loin que la Boétie, c'est-à-dire qu'ils considèrent que ceux qui sont dominés n'ont pas le choix, obéissent sans opposer quoi que ce soit. Alors, je vais vous citer Max Weber. Donc, la date, donc Max Weber, c'est début du 19e siècle. C'est un sociologue allemand. C'est écrit en 1995 parce que ses écrits ont été traduits en français seulement en 1995. Donc, il écrit: nous entendons par domination la chance pour des ordres spécifiques ou pour tous les autres de trouver obéissance de la part d'un groupe déterminé d'individus. Tout véritable rapport de domination comporte un minimum de volonté d'obéir. Donc là, ce qui est important de souligner, c'est que Weber se situe du côté des dominants qui ont vraiment la chance d'avoir des groupes qui sont prêts à obéir. Et donc, il est toujours pas du côté des dominés, lui. Il analyse la relation entre les dominants et les dominés du côté des dominants en disant que les dominés, eux, ils suivent et puis c'est tout. Émile Durkheim, lui aussi, c'est début du 19e, mais c'est un écrit qui a été retranscrit en 1981. Donc, c'est un sociologue français relativement connu. En même temps que les institutions s'imposent à nous, donc lui, il parle pour le coup du côté des dominés. Donc en même temps que les institutions s'imposent à nous, nous y tenons. Elles nous obligent et nous les aimons. elles nous contraignent et nous trouvons notre compte à leur fonctionnement et à cette contrainte même. Donc lui, c'est à l'opposé de Weber. Lui, Weber parlait des dominants qui avaient la chance de trouver des dominés. Et là, Durkheim nous aide parce qu'il nous dit ce que sont les dominés qui acceptent, en fait, et qui aiment la relation d'obéissance. Enfin, Pierre Bourdieu, donc, qui s'intéresse aux relations de domination entre hommes et femmes, et qui écrit en 1998 sur la domination masculine, qui lui dit la domination masculine qui constitue les femmes en objets symboliques, les place dans un état permanent d'insécurité corporelle, ou mieux, de dépendance symbolique. Elle existe d'abord par et pour le regard des autres, c'est-à-dire en tant qu'objet accueillant, attrayant, disponible. Nous allons voir... 98, et Pierre Bourdieu, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est quand même très, très, très connu. Et voilà. Donc lui, pareil, il considère que la relation, ce qui est intéressant là-dedans, je ne dis pas que je suis d'accord, je dis que ce qui est intéressant dans ce qu'il écrit, c'est que lui, il parle en quelque sorte d'une relation de dépendance qui serait symbolique. Symbolique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la matérialiser. Eh bien, nous allons voir... que ces définitions qu'on vient de voir, que ce soit de la part de la Boétie, de Weber, de Bourdieu ou de Durkheim, en fait, ça associe la notion de pouvoir, telle que vous l'avez définie vous-même, hein, on va voir que ce n'est pas si simple, et la domination, comme si c'était deux choses confondues, et la domination étant entendue comme un rapport de force établi entre celui qui commande et celui qui obéit. Donc là, on a à peu près tous les mots, presque, hein, le pouvoir, la force et le commandement. Mais donc, dans ces définitions de la domination comme rapport d'obéissance, c'est vraiment une relation qui assimile la domination et le pouvoir. Alors, on va voir que ce n'est pas si simple du tout, ça va se corser, et qu'on va devoir apporter des nuances dans cette relation entre pouvoir et domination, et que même on va les opposer. Donc pareil, j'ai illustré cette partie par une image. Peut-être avez-vous des commentaires, peut-être vous parle-t-elle.
2015. C'est en 2015, c'est
ça. Ah, c'est possible. Mais qu'est-ce qu'elle représente, cette photo? Vous me faites plaisir.
Et là, il faut aller sur un truc symbolique.
C'est symbolique ?
La statue, c'est...
Ah ! C'est la République. C'est la place de la République à Paris.
Voilà. Ils sont pas allés n'importe où.
Vous avez une idée du nombre de personnes qu'il y a, non ? Ou selon les organisateurs, ça se trouve, il n'y a même pas de syndicat. Bon, donc justement, voilà, on va s'intéresser à quelque chose de plus nuancé. Et cette nuance nous est apportée par Hannah Arendt. Vous aurez peut-être compris que je l'aime beaucoup parce qu'elle est citée dans le petit résumé là, qui vous a fait venir. Donc elle dit que Hannah Arendt, donc, qui est une philosophe allemande, que la domination de l'homme sur l'homme, telle qu'elle est énoncée depuis un moment, à l'époque où elle écrit, est une version falsifiée et falsifiante du pouvoir. Et elle nous explique, en fait, qu'il faut dissocier la domination, qui est un rapport de commandement basé sur la violence, pour ça toutes mes questions, et le pouvoir, qui renvoie à l'expérience de la liberté. C'est-à-dire, elle écrit, en 72, donc bien avant Bourdieu, par exemple, pouvoir, puissance, force, autorité, violence, ce ne sont là que des mots indicateurs, des moyens que l'homme utilise afin de dominer l'homme. On les tient pour synonymes du fait qu'ils ont la même fonction. Donc là, ce qui est intéressant dans ce que dit Hannah Arendt, c'est que ces nuances-là, le pouvoir, la puissance, la force, l'autorité, la violence, ne sont que des moyens de la domination, qui elle, est donc beaucoup plus large. Alors, elle nous explique, hein, que donc le pouvoir présente, à l'inverse de la relation de domination, plus un potentiel pouvoir, ça vient de potent, je sais pas quoi, là, enfin du latin qui veut dire potentiel. Et donc c'est commun à un groupe, le potentiel, et ça n'a pas de caractère hiérarchique. Alors qu'effectivement tous, là ça a été quasi unanime, vous avez absolument foncé tête baissée sur l'idée communément répandue et utilisée, y compris ici, que le pouvoir, c'est le pouvoir politique, le pouvoir des ordres, alors que non. En fait, le pouvoir, c'est celui que nous avons ensemble, en commun, pour faire une manif et pourquoi pas la révolution. C'est Hannah Arendt. Hein. La puissance, c'est encore quelque chose de différent. C'est très individuel. On a, et là vous l'avez dit, on a la puissance d'agir. Après, on entend parler de grande puissance, de puissance économique, de puissance militaire. Mais là, c'est pareil, c'est déjà... Là où je veux vous amener au fur et à mesure, c'est que vous allez voir que les mots ont leur importance, évidemment, mais qu'on l'a intégré déjà. Que le mot puissance, c'est pas individuel, ça nous appartient pas. Alors que ça pourrait nous appartenir fortement. Alors, la force... Elle est souvent utilisée comme synonyme de violence, mais en fait, c'est une énergie. Ça, vous en avez parlé, hein. Soit physique, bon, j'étais pas barrée sur l'électromagnétique, moi, ou je sais pas quoi, là. Mais physique, c'est genre, on peut porter un carton, on peut se déplacer d'un endroit à l'autre, jusqu'à ce qu'on puisse plus. Et donc, il y a une force sociale, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut se mobiliser, par exemple, à l'intérieur d'une usine, pour la garder. Voilà, ça, c'est... Il y avait une force, je dis ça parce que... Il y a ici présents des anciens grévistes d'usines qui étaient prévues à la délocalisation et qui ont occupé l'usine pour garder l'usine entre leurs mains, des ouvriers. Donc ça, il faut vraiment une force pour agir comme ça. Donc ça aussi, c'est en ça que c'est pas de la violence. C'est vraiment une énergie. Voilà. La violence, alors, elle est très différente du pouvoir en cela qu'elle est son instrument. Ça, vous l'avez dit. C'est-à-dire que, alors là, c'était quasi unanime, donc vous voyez, c'est pas si simple, c'est qu'il n'y a pas de domination sans violence. Et puis, vous avez parlé, je crois, de guerre, de rapports violents. Voilà, la violence, elle est utilisée par le pouvoir pour se maintenir. Mais donc, ça vaut aussi pour les dominés. Parce que si les dominés prennent le pouvoir, ne serait-ce que le moment d'une manif, ils peuvent éventuellement être violents, symboliques ou pas. On va voir qu'il y a une différence entre les violences symboliques et les violences matérielles. Mais vraiment, la violence, elle est associée au pouvoir, qu'il soit du côté des dominants ou des dominés. Enfin, l'autorité, son intérêt, c'est qu'elle assure la pérennité du pouvoir. Parce qu'en fait, le pouvoir est totalement éphémère. Que ce soit le pouvoir politique, là, on est en plein... Ah, j'avais dit qu'on n'en parlerait pas des élections. Mais on sent que ça dure pas. Voilà. Et donc, l'autorité, elle sert à ça. On fait autorité sur un certain nombre d'idées. Moi, j'avais pas du tout la même interprétation que vous sur l'image que j'ai mise... dans la partie, là, c'est que pour moi, c'est l'autorité parentale, on en a parlé. Donc là, effectivement, quand on est un enfant, quand on n'est pas adulte, donc par définition, on est mineur civique, on est obligé d'obéir. Et pourquoi ? Parce que les parents exercent l'autorité. Pourquoi ? C'est pas forcément méchant, c'est qu'il y a une nécessité à exercer son autorité pour maintenir son pouvoir de parent. Donc toutes les nuances apportées par Hannah Arendt, elles sont intéressantes parce que elle qualifie ce qui est commun à un groupe et ce qui est individuel, et donc ce qui fait obéissance et ce qui crée la liberté. Ça, c'est fondamental. C'est Hannah Arendt qui a apporté ça dans les définitions sur la domination. Alors que les autres, vous avez vu, c'était très... Soit on est dominé, on a de la chance parce qu'on a un parterre qui vous obéit, soit on est dominé et juste on est super content parce qu'on a des gens qui font à notre place, en gros. Arendt, elle n'est pas du tout sur ces positions-là. Elle pense que c'est vraiment une opposition. Vous n'avez pas du tout utilisé le mot « liberté hein. ». C'est vraiment une opposition entre la hiérarchie, tout ce qui fait obéissance, tout ce qui fait commandement, et la liberté que nous avons tous. Alors, c'est en ça qu'elle apporte une nuance sur la vision que nous avons du pouvoir. Quand on dit le mot pouvoir, on l'associe donc au pouvoir politique le plus souvent, ou au pouvoir des dirigeants. Et ça, c'est un pouvoir sûr. Elle insiste sur le tiret, tiret sûr. C'est pas le pouvoir, c'est le pouvoir sûr. C'est très, très important, parce que c'est là qu'il y a commandement, contrainte et violence. Alors que si on a le pouvoir, on est libre. On peut faire tout. Là, ici, là, ce soir, on pourrait décider de changer la couleur des murs. Certes, il y a une élue, donc on devrait la consulter. Donc ça, c'est le côté pouvoir sûr. On serait obligé de la consulter avant de repeindre les murs. Mais on pourrait très bien décider collectivement, ce soir, que ça serait quand même vachement mieux de repeindre les murs. C'est ça, le pouvoir, et c'est ça, le pouvoir sûr. Vous voyez la différence ? Alors, on va encore approfondir cette définition de la domination en revenant sur ce que sont les rapports sociaux et en quoi ils nourrissent la domination. Là, pareil, je vous ai mis une petite photo. Peut-être avez-vous des commentaires, peut-être avez-vous quelque chose à dire par rapport à cette petite photo ? Quoi ? Voilà. Bon. J'ai eu chaud parce que celle-là, je l'ai cherchée longtemps, je peux vous dire. Parce que pour illustrer ce que je vais dire, j'ai mis du temps à trouver ça. Et puis, il y a des chaînes. Ouais, voilà, il y a des chaînes. Ils sont tous reliés entre eux. Des femmes, des hommes. Il n'y a que des bustes. Ils sont tous chauds, quoi, presque. Voilà. Alors, Claude Mathieu, qui est une sociologue française, elle aussi insiste sur la différence entre domination et pouvoir. Parce qu'elle veut qualifier l'oppression spécifique des femmes en tant que groupe social. Alors, elle nous dit que la violence symbolique développée par Pierre Bourdieu, en gros, n'existe pas. Et elle insiste, elle, sur le poids de la violence réelle, matérielle, exercée contre les femmes par des hommes. Donc, elle s'inscrit plutôt dans la lignée de Marx, qui matérialisait l'oppression et l'aliénation. Donc elle, son travail, c'est de matérialiser l'oppression spécifique des femmes. Donc elle écrit, en 85, donc avant Bourdieu, le terme d'oppression implique et insiste sur l'idée de violence exercée, d'excès, d'étouffement. C'est à partir du moment où il y a oppression, il y a forcément de la violence. Et qu'à partir de ce moment-là, ça ne peut pas être symbolique. C'est forcément réel. Donc on va voir que dans la même lignée, c'est la même époque, hein, les mouvements de femmes ont longtemps affirmé que le privé est politique. Vous avez parlé tout à l'heure de différentes sphères. Que le privé est politique pour placer les violences sexistes, qui sont jugées le plus souvent banales et ordinaires, comme publiques, c'est-à-dire qu'elles ne relèvent pas seulement de la sphère personnelle, dite privée, mais découle des inégalités structurelles de la société, notamment entre les sexes, et que ces violences qui sont sexistes sont les instruments permettant de maintenir au pouvoir, alors là pour le coup c'est pas symbolique non plus, les hommes. On va voir que ça s'affine. Là ce qui est important c'est de comprendre le lien qu'elle fait, la nuance qu'elle fait entre le privé et le public. Donc les mouvements de femmes se sont beaucoup intéressés à ça parce que sinon tout est caché. À partir du moment où c'est privé, les violences sont invisibles. Et donc c'est comme si elles n'existaient pas. Ou si elles existent, elles sont banalisées. Donc, vous l'avez dit, qu'elles peuvent être verbales, des violences, psychologiques, physiques, sexuelles, vous ne l'avez pas dit. mais aussi matérielle et économique. Par exemple, alors là, moi j'en ai plein des exemples que vous n'avez pas cités, le viol, l'inceste, le féminicide, le harcèlement au travail, mais indépendamment du côté très plutôt sexuel, il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas égalité des salaires pour un même poste, pour à compétences égales. C'est une violence pour une femme de voir ça, de le vivre. Il y a des violences économiques parce qu'on a, en tant que femme, on n'a pas accès au même poste de travail et donc pas accès au même niveau de vie non plus. C'est-à-dire que la précarité chez les femmes est plus importante et ça, ça représente une violence. Et donc c'est très très matériel, c'est tout sauf symbolique. Alors Colette Guillaumat, qui est une autre sociologue française, se place dans la lignée de Nicole Claude-Mathieu et évoque un système plus large d'oppression. Elle rajoute deux discriminations. Qui connaît les soubassements ? Ce sont les fameux rapports sociaux de classe, de race, de genre. Évidemment, on va voir ce que c'est que tout ça. Alors, elle parle de sexage pour définir à la fois une appropriation privée, où le propriétaire est un homme particulier au sein de la famille ou du foyer. Donc le père, je ne vous ai pas dit le mari, hein, et une appropriation collective, sexuelle, reproductive, au sein des familles comme dans le secteur des services. Là, ce qui est intéressant chez Colette Guillaumin, c'est la notion d'appropriation. Dans la domination, il y a une appropriation des dominés, et en particulier de leur corps. Donc là, elle s'appuie, dans un premier temps, sur l'appropriation du corps des femmes à l'intérieur du foyer, mais aussi à l'extérieur, dans les secteurs de service, c'est... les femmes de ménage, les aides à la personne, c'est essentiellement, et puis dans le domaine sanitaire, tout ce qui n'est pas hiérarchisé, c'est essentiellement des femmes. Donc ce qu'elle explique, c'est que la domination passe par l'appropriation des corps eux-mêmes, pas seulement d'une idée ou d'un groupe, c'est vraiment par l'appropriation des corps, dans le privé et dans le public. Alors, elle, avec cette notion de sexage, elle montre à quel point les femmes s'inscrivent dans la prise en charge de l'entretien physique et moral des hommes comme des enfants, ça vous en avez parlé, des malades, des vieillards, ce qu'elle nomme également le travail de production-reproduction. Ça, c'est très important parce que la reproduction, quoi, retirer production, reproduction, vous comprenez, c'est la reproduction humaine, hein, c'est-à-dire que... Les femmes, elles ont le pouvoir d'enfanter, ce que n'ont pas les hommes, mais elle associe avec ce pouvoir de reproduction l'idée de production, parce que en s'appropriant le corps des femmes, les dominants permettent aussi de structurer la production. Ça, c'est en termes marxistes, donc la production, c'est tout ce qui est dans le travail, tout ce qu'on produit, que ce soit... des objets, genre une voiture, mais aussi des services. Donc elle lit directement l'idée que les femmes ont le pouvoir d'enfanter, donc la reproduction, et le fait que leur corps soit approprié en vue de la production. Je vous la cite. En 92, « Toujours et partout, on entend que les femmes fassent le nettoyage et l'aménagement, surveillent et nourrissent les enfants, balayent ou servent le thé, fasse la vaisselle ou décroche le téléphone, recouse le bouton ou écoute les vertiges métaphysiques et professionnels des hommes, etc. » Vous allez me dire, vous ne me l'avez pas dit, mais c'est en 92, c'est il y a 30 ans, maintenant ça a vachement changé. Eh bien non, pas de bol, je peux vous dire qu'en France, depuis 30 ans, les femmes ont gagné 7 minutes par jour dans l'exécution des tâches ménagères. 7 minutes. C'est mieux qu'il y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, c'était 9 minutes. Non, non, vraiment, on n'en est pas du tout à l'égalité. Mais ça, je vous fais référer à la précédente conférence que j'ai faite. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est le rôle. En fait, ce qu'elle démontre, Colette Guillaumin, c'est que les femmes ont un rôle assigné qui consiste à prendre soin des autres. Alors, à partir de ce concept d'appropriation, elle introduit la notion donc de rapports sociaux qu'elle oppose à l'idée de nature et des différences que cette nature introduirait. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on considérait que les femmes étaient sensibles, qu'elles étaient vulnérables, qu'elles étaient gentilles, que c'était naturel pour elles de s'occuper des autres, parce que c'est inné, parce que comme elles ont donné la vie, alors c'est inné en elles de prendre soin des autres, alors que les hommes, c'est plus la force. Je te regarde, toi, mais c'est plus, c'est plus viril. Et puis les hommes, ils sont là pour tenir le foyer, etc. Tout ça, ce qu'elle explique Colette Guillaume, c'est que ce ne sont que des constructions. Ce n'est pas du tout naturel. C'est pas, on n'est pas né avec ça, ni les uns, ni les autres, ni les hommes, ni les femmes. Ça a été complètement construit. C'est ça, les rapports sociaux. C'est ça que désignent les rapports sociaux. Et dans les rapports sociaux, il y a donc des différences entre le sexe, la race et la classe. Donc, ce qui est intéressant chez Colette Guillaume, c'est qu'avant de s'intéresser à l'oppression spécifique des femmes, elle s'est intéressée à l'oppression spécifique des travailleurs immigrés en France. Et donc, c'est là qu'elle a mis en exergue les oppressions des travailleurs immigrés, mais qu'elle fait le lien entre les oppressions de sexe et de race, et donc la domination qui s'exerce sur les uns. Alors là, pour le coup, on est aussi chez les travailleurs immigrés à l'époque, maintenant on parlerait des migrants, et que, soi-disant, leur sort serait lié à ce qu'ils sont, à leur nature. Elle dit que non, aussi, là aussi, c'est une construction. Et ce qui est important, c'est qu'elle associe les oppressions spécifiques de sexe et de race. Elle écrit « L'esclavage, donc toujours à la même époque, devient un attribut de la couleur de la peau, la non-rémunération du travail domestique un attribut de la forme de sexe. » Donc, jusqu'à ce que ce soit écrit noir sur blanc, cette histoire de rapports sociaux, on pensait vraiment que les esclaves, ils étaient esclaves parce qu'ils sont un peu abrutis, quoi, parce qu'ils se laissent faire, et que les femmes, elles ne sont pas rémunérées à la maison, parce qu'elles aussi, elles sont gentilles, quoi. Voilà. Eh bien non, c'est, tout ça est bien construit et procède de la domination. Alors, l'intérêt de Colette Guillaume, en liant sexe et race, elle démontre que ces notions sont des inventions juridiquement entérinées. Donc là, elle parle des lois prohibitives, discriminatoires, ségrégatives, et que c'est donc les discriminations sont définitivement efficaces puisqu'elles sont inscrites dans la loi. Alors là, vous allez me dire, on comprend rien. Alors je vous parle des lois. Voilà. Mais avant, alors, je voulais remonter un peu avant. Donc, mais les lois raciales de l'esclavage, vous imaginez qu'il n'y a pas si longtemps, là, au 19e, donc on s'achemine gentiment à ma petite colonisation, là. On avait voté à la Révolution française la Déclaration des droits de l'homme, où tous les hommes naissent égaux en droit. Vous voyez, on y est là. Ben non, d'abord, c'est pas tous les hommes, c'est éventuellement quelques hommes et quelques femmes. Ensuite, effectivement, les hommes et les femmes des colonies, elles n'avaient pas du tout les mêmes droits que les hommes et les femmes de la métropole. Et à la métropole, effectivement, les hommes et les femmes n'avaient pas du tout les mêmes droits. Voilà. Pour... C'est ça. Oui, mais... Elle a aboli l'esclavage sur proposition de l'âme de Gouge, qui elle-même avait écrit la Déclaration des droits de la femme, qui n'a pas été votée par l'Assemblée, et elle a été elle-même guillotinée. Oui. Mais vous voyez bien, ce qui est intéressant, là, où j'essaye de vous amener, c'est dans l'histoire. C'est-à-dire que suivant l'histoire, quoi, si on remonte dans l'histoire, on voit que la domination prend des figures différentes. Non, on ne va pas s'orienter là-dessus, sur cette discussion. Je sais bien, de toute façon, c'est les Arabes, les Sarrasins. Mais c'était des dominants. Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est de qualifier la domination. Donc la domination passe par des lois qui sont coercitives. et que pourquoi elles sont coercitives, c'est pour mieux aliéner et opprimer un certain nombre de personnes. Donc il y a eu l'esclavage. Je voulais parler aussi des lois raciales sous Mussolini dans les années 30, sous Hitler à peu près à la même période, mais aussi sous Pétain dans les années 40. Et puis effectivement, donc les droits pour les femmes d'avoir un chéquier, c'est-à-dire de ne pas être la propriété de leur mari pour dépenser l'argent du ménage, c'est quelle année ? Vous pouviez pas, vous n'aviez pas le droit d'avoir un compte en banque. La loi sur la liberté pour des femmes d'avoir son propre compte en banque, c'est 66. Pardon ? Ah bon ? Bah oui, mais ça c'est dans le cadre d'une entreprise. Mais c'est intéressant ça aussi. Ah ouais, c'est intéressant. Donc dans l'entreprise c'était possible, mais ça n'était pas possible pour toutes les Françaises. Et puis là, ce qui est important de souligner aussi, on ne va pas donc se battre sur les histoires d'esclavage en France. Comment ? Oui, oui, oui. Je vous rappelle qu'on est en 2021 et que les migrants en France, c'est-à-dire les personnes vivant en France depuis un certain nombre d'années, mais je ne vous parle même pas des réfugiés là, mais qui n'ont pas pris la nationalité française, n'ont pas le droit de vote. C'est-à-dire qu'ils ne participent pas de la démocratie française. Donc c'est en ça qu'elle parle de loi. Et elle dit que ce passe-passe, donc je vous rappelle, c'était Colette Guillaumin, ce passe-passe juridique a inscrit la domination dans le corps des individus. C'est-à-dire que par ces lois, on accède au droit de vote des femmes, c'est lié à la compréhension qu'on a des fonctionnements des individus par leur corps. Et alors que la représentation du dominant, on ne l'a jamais par les lois. Là, alors, donc je le dirai plus tard, ça. Mais ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire que les lois inscrivent dans le droit, donc c'est quand même important, la notion d'appropriation des corps des personnes dominées. Alors, Elsa Dorlin, qui est une philosophe française, qui est beaucoup plus contemporaine, elle complète les travaux de Colette Guillaumin et démontre que ces rapports sociaux de race et de classe, tout comme les rapports de classe, donc là on est bourgeoisie, prolétariat, sont imbriqués. C'est-à-dire que de là de se cumuler, donc là il faut imaginer soit le millefeuille, soit le Lego, c'est une couche de noir, une couche de femme, une couche de pauvre, ou alors une couche d'arabe, une couche de jeune femme, une couche de précaire. Enfin, moi, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est des couches, quoi, on s'additionne. Au-delà de s'additionner, elles se croisent. Alors là, il faut imaginer un réseau routier où il y a le métis qui croise la pauvre, qui croise elle-même le dominant blanc. Vous allez voir que le titre, foufou. Mais ça arrive, mais que ce n'est pas suffisant encore pour qualifier la domination. C'est-à-dire ça se cumule, ça se croise, mais ça s'imbrique. Ça veut dire que ça remonte de plus loin et que surtout que c'est complètement entremêlé. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement ou noir ou blanc, ou femme ou homme, ou qu'on peut être aussi femme, noire, etc. Et que si on ne se projette pas justement dans la vision historique de la création de la domination, on perd quelque chose. Et c'est surtout qu'on participe de la domination. Ça, c'est ce qu'a apporté Elsa Dorlin. Donc là, elle fait une projection en 3D, en quelque sorte, hein, du millefeuille et du réseau routier, pour mieux expliquer d'où on vient et pourquoi il y a ce type de domination aujourd'hui. Alors elle écrit, je vous préviens, c'est corsé. En 2005, la menace constante de renaturalisation des sujets politiques, la tendance à positionner, à fixer les identités sur des lignes et des intersections aux dépens d'une pensée de l'historicité des rapports de pouvoir et des processus de subjectivation politique apparaissent comme une ruse de la raison dominante. Donc là, je ne sais pas si vous avez suivi, mais elle insiste sur le fait donc que les individus dominés sont naturalisés, c'est-à-dire ramenés à leur corps ou à leur essence, ce qu'ils seraient en tant que noirs ou femmes ou arabes, etc. Alors que, et c'est ça qui fait qu'ils sont assujettis et que surtout, en ne pensant pas l'histoire de ces relations, notamment donc avec les Noirs, les Arabes et les autres, on se coupe d'une partie de la définition de la domination. Alors en fait, la domination héritée de l'histoire coloniale, il faut le souligner, dévirilise les hommes et érotise les femmes, rend les individus objets plutôt que sujets, autant de composantes de rapports d'oppression qui les frappent. Alors, là, pareil, vous pourriez me dire, mais ça veut dire de comment ça, dévirilisait les hommes. Bon, alors déjà, si on revient sur l'esclavage, il était plutôt courant d'émasculer les hommes, noirs, quoi, les dominés, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Et les femmes étaient vendues nues sur les marchés et on considérait que plus elles étaient belles au sens des dominants, c'est-à-dire ceux qui les vendaient, plus elle valait cher, donc c'était vraiment lié au corps des personnes qu'on vendait. Plus récemment, donc ça c'est plutôt, faut se diriger vers les États-Unis par exemple, à l'époque de la ségrégation, avant que les Noirs aient accès à leurs droits civiques, il n'était pas rare que le Ku Klux Klan par exemple, qui s'opposait donc aux droits civiques des Noirs, émascule les hommes en public, alors, et puis les lynchait, etc. Et les femmes, on les violait en public, et on les montrait nues, pareil, ce qui est d'une... Je ne sais plus qui a parlé d'humiliation ou de mépris, je ne sais plus. Ce qui est très, très humiliant pour les personnes qui subissent ce type de violence. Alors, justement, on arrive à l'histoire de la colonisation et au lien entre la domination et la colonisation, ce qu'on appelle, en fait... Vous disiez c'est plus fourbe aujourd'hui ou c'est plus insidieux. Donc effectivement, il n'y a plus de colonisation aujourd'hui. Ça s'appelle la colonialité. On y arrive. Donc je vous ai fait une petite image pour introduire cette dernière partie. C'est la dernière. J'espère que vous tenez le coup. Et peut-être... Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça là ? Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que ça. Il y a ça, évidemment, tout ce que vous venez de dire. Il y a un aspect économique, un aspect de dépendance. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plus grave. Il y a plus grave. Il y a plus grave. Hein ? Ah ben ça, il y a une domination. Alors, là, ce qui va être important de projeter, c'est que on hérite donc d'une histoire coloniale. Partout dans le monde, soit en tant que colonisant, soit en tant que colonisé. C'est l'héritage du colonialisme. Et cela au niveau mondial, entre populations, entre États et entre États et populations. C'est-à-dire, c'est là ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que l'apanage des États qui auraient la chance, comme nous dirait Weber, de pouvoir dominer des populations. Parce qu'ils sont noirs, ou parce que ce sont des femmes, ou parce qu'ils sont pauvres. C'est aussi entre populations. Par exemple, le racisme, c'est pas que entre États et populations, c'est aussi donc entre populations et entre États. C'est-à-dire que les États, les grandes puissances, par exemple, puisqu'on en a parlé, considèrent les autres États comme pas pareils. On y arrive. Donc, on va voir que cette situation hégémonique de domination n'implique pas uniquement l'économique entre l'Occident, ce qui est le plus souvent cité, et les autres pays, mais aussi une domination qu'on appelle épistémique, au sens, donc, épistémique, épistémée, la pensée, au sens où les dominants imposent leur savoir. D'où ma petite illustration C'est-à-dire que tout ce que vous, et on va en reparler là, tout ce que, tous les logos que vous avez vus là de, d'Internet, les réseaux sociaux, etc., vous les avez tous reconnus, je n'en doute pas, c'est quand même très nord-américain, et ce sont des entreprises privées, on y arrive. Alors, notre ami Aníbal Quijano, qui est un sociologue péruvien, regroupe l'ensemble des rapports de domination qui découlent du colonialisme sous le terme générique de colonialité du pouvoir. Je le cite, je vous préviens, c'est de l'épais. La colonialité inclut les rapports seigneuriaux entre dominants et dominés, le sexisme et le patriarcat, le familialismo, non le familialismo, j'arrive jamais à le dire cela, jeu d'influence fondé sur les réseaux familiaux, donc vous avez vu, on a tout vu, hein. Le clientélisme, le comparasgo, donc ça c'est le copinage, et le patrimonialisme dans les relations entre le public et le privé, et surtout entre la société civile et les institutions politiques. Donc Quijano, il nous a fait un texte où il a, mais vraiment, ça c'est une seule phrase, hein, il a tout rassemblé, toutes les formes, quelles sont les formes de, des dominations, et surtout, en une seule phrase, il nous explique que toutes ces formes-là coexistent entre le privé et le public, et entre ce qu'il appelle la société civile et que j'appelle les populations, et les institutions politiques, qui sont en fait le pouvoir sûr, le premier pouvoir sûr. Alors, en fait, la colonialité, elle a précédé, accompagné et dépassé les situations coloniales. C'est ça qui est intéressant dans le terme de colonialité, IT, parce que justement, ça dure. Et elle se traduit effectivement par des échanges économiques et financiers accélérés. Ça n'a jamais été aussi rapide. Je ne vous parle pas de la bourse, etc., et des cotations. On ne va pas parler de ça. Mais aussi par une importante ingérence épistémique, c'est-à-dire les expressions, les imaginaires, les représentations et descriptions de savoir et connaissances, d'où mes Facebook, Twitter et autres, Microsoft, tout ça, qui viennent des États et entreprises du secteur privé d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord, et en particulier d'Amérique du Nord. C'est ce qu'on appelle le centre. Dans certaines études, ça s'appelle les études subalternes. Dans les études subalternes, l'Occident n'est plus appelé Occident, ça s'appelle le centre. Et sur, donc ces États exercent une domination sur les États du Sud qu'on appelle donc la périphérie, parce qu'il y a le centre et la périphérie. Donc là, vous voyez bien les expressions, les imaginaires, les représentations. C'est mon ami, comment c'est ? Moi, je ne connais pas du tout, quoi. J'adhère pas du tout à Facebook, tout ça, mais tout ce qui passe par les logiciels, par les algorithmes, par même les expressions, les smileys, voilà. Mais ça procède de la domination parce que ça influe sur la pensée de tout le monde et de chacun. Et pas que des gens d'où ça vient, dans le monde entier. Donc Fatima Hurtado, qui est une philosophe française, écrit en 2009, « Sur la base d'une hiérarchie ethno-raciale globale de longue date, il existe de profondes inégalités dans l'accès des différents sujets à la production des connaissances. » Elle insiste sur le fait que la production des connaissances n'est pas du côté des dominés, elle est plutôt du côté des dominants, d'où Facebook, Twitter, etc., mais pas uniquement. Après, on peut décliner ce type de hiérarchisation des connaissances au niveau des ordres, par exemple. Mais bon, on ne va pas en parler ce soir. Alors, donc, selon Achille Mbembe, dont vous avez dû entendre parler récemment, parce qu'il a conseillé le président de la République française sur les relations à avoir avec les pays d'Afrique, donc ça c'était en octobre, il y avait une grande rencontre, et donc c'est Mbembe, qui est donc un philosophe camerounais, qui a donc conseillé Macron, lui, il pense que les dominations sont basées carrément sur un despotisme postcolonial qui engendre une miniaturisation des violences dans les pays de la périphérie. Ça veut dire quoi, ça ? C'est que, comme les connaissances, les savoirs des pays de la périphérie, donc quand on dit pays, là, pour le coup, c'est aussi bien les États que les populations, ne sont pas visibles, alors les violences telles qu'elles sont vécues ne sont pas visibles non plus, donc elles sont miniaturisées. Donc ça, c'est très important. Tout l'arsenal, tous les instruments, ça c'est Hannah Arendt, qui sont mis en place par les dominants pour dominer, passe par l'appropriation des esprits et donc par une invisibilisation des savoirs des dominés. Alors, les violences, c'est les violences épistémiques, donc c'est les violences de savoir, s'écrivent dans un récit historique qui, selon Gayatri Spivak, prend l'expérience européenne comme unique référence géographique, culturelle et politique. Et elle nomme ça l'essentialisme des Lumières. Donc là, je vous rappelle, donc l'essentialisme des Lumières, c'est le 18e, c'est la Révolution française, c'est donc la philosophie des Lumières, hein, c'est l'abolition des privilèges, c'est la dissociation totale entre État et religion. Donc c'est considéré comme quelque chose de vraiment bien, les Lumières. Ça a apporté quelque chose de super bien. Sauf que, comme on le disait tout à l'heure, par exemple, la Déclaration des droits de l'homme, elle est quand même beaucoup pour les hommes et pas beaucoup pour les colonisés. Que même si après, il y a eu des mouvements dans l'histoire, le fait est que dans les pays de la périphérie, c'est-à-dire dans les pays colonisés, ces lumières-là, ce qui a été apporté, par exemple, par la Révolution française, n'a pas de répercussion directe en termes de lumière sur les pays de la périphérie, voire au contraire. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, Spivak ? Elle dit, en 88, « La production intellectuelle occidentale, notamment Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Foucault. » Donc là, vous voyez qu'elle y va fort, parce qu'on ne peut pas dire que ces philosophes-là soient particulièrement réactionnaires. Ce sont des gens très, très connus. Elle dit que donc la production intellectuelle de ces philosophes est de maintes façons complice des intérêts économiques internationaux de l'Occident. Et elle nous explique pourquoi. Alors, elle est indo-américaine, c'est-à-dire qu'elle est à cheval entre... Quoi, elle est originaire de l'Inde et elle travaille comme professeure aux États-Unis. Elle met en regard la rhétorique occidentale, c'est-à-dire celle du savoir, celle des Lumières, à celle, la possibilité pour les femmes de la périphérie de parler en leur nom. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire ? Elle prend pour exemple les veuves en Inde qui s'immolent donc par le feu dans la rue, après donc, leur mari soit mort. Donc il y eut une époque sous l'Empire britannique, parce que l'Inde était sous colonisation britannique, où l'Empire britannique a essayé d'arrêter ces pratiques, parce qu'elle considérait ça barbare. Et elle considérait que c'était une atteinte aux droits des femmes. Alors qu'en réalité, selon Spivak, mais pas uniquement, ces femmes, en fait, c'était des guerrières, parce que pour s'immoler par le feu, déjà, il faut un courage fou. Donc c'est comme un acte martial, c'est considéré comme un acte martial. Toutes les veuves ne faisaient pas ça. Il y avait certaines veuves qui le faisaient. On les obligeait, mais il y en avait aussi qui le faisaient volontairement en public pour montrer leur capacité. En fait, ce qu'elles voulaient démontrer, et ce que dit Spivak, c'est que les femmes qui se sont immolées, je ne sais plus à quelle époque, avant les indépendances, en Inde, c'était pour montrer leur opposition à l'Empire. Et donc ce que nous dit Spivak, c'est que avec la philosophie des Lumières, on ne voit pas... Bon, ça, c'est un exemple. Elle se sert du rituel, ça s'appelle le sati. Elle se sert de ça, mais il y en a plein d'autres en Afrique, ailleurs, où cette vision, en fait, du monde qui est... Nous, on peut aussi considérer ça très, très barbare, de s'immoler par le feu, que c'est horrible. Mais pour les femmes qui le font, ce n'était pas le cas. C'était montrer son opposition à l'Empire. Donc, Spivak oppose le discours sur l'aide, le soutien, l'appui, la libération, l'émancipation par le centre des démunis, des marginalisés, des pauvres, des discriminés, des femmes, une vision politique qui privilégie la visibilité, l'expression, la mise en lumière des dits marginalisés et de leur savoir par eux-mêmes. Donc là, on se répète, c'est-à-dire que tant que les savoirs de tous les marginalisés, c'est-à-dire les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, encore, ils sont un peu moins marginalisés maintenant, mais bon, dans les sociétés du centre, seront considérés comme des personnes à aider, à soutenir, comme si ils n'avaient pas eux-mêmes les capacités ou la volonté ou la puissance ou la force de se libérer par eux-mêmes, alors on n'avancera pas. Donc elle a dit qu'il faut faire le contraire. Donc c'est la fin. Elle ouvre ainsi des pistes de résistance ou d'innovation politique des dominés, et en particulier des jeunes femmes pauvres noires aux mâles tribus, des tribus de vieux mâles blancs. J'espère que vous aurez compris mon tour de passe-passe à moi, mais sinon, je suis à votre disposition pour toute question.